Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici un crime commis par un groupe. Un groupe de quatre. Un groupe de quatre lié au point qu'on aura beaucoup de mal à départager les responsabilités. Il s'agit de l'assassinat en janvier 2000 à Éragny dans le Val d'Oise de Joël Després. C'est une histoire très douloureuse parce que ce que ces quatre-là ont fait subir à cet homme jusqu'à le brûler vif est absolument terrible. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
C'est une histoire qui commence comme tant d'autres. Un samedi de février 2000, le 5 février, à Éragny dans le Val-d'Oise, pas très loin de Cergy-Pontoise, un groupe de chasseurs est sur le chemin du retour. La nuit est en train de tomber, il ne faut pas traîner. Mais le chien, manifestement, a d'autres plans. Viens donc là ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Le chien vient de sauter le talus et il entraîne le groupe de chasseurs vers le bois juste derrière. Et il s'arrête au bord d'un trou, pas très profond. Oh merde ! Il y a un corps humain calciné au fond du trou. Quand les flics de la PJ de Versailles arrivent sur place, il fait nuit noire. Ils découvrent le cadavre calciné à la lumière de leur torche. Un homme qui, ça, ça les frappe tout de suite, tient dans la main une branche. La main est brûlée, mais pas la branche. Et mieux, sur la branche, il y a un petit bourgeon qui est en train d'éclore. Bizarre. À part ça, l'homme porte une alliance, et alentour on trouve des chiffons, qui sont peut-être ses vêtements. Et une basket, qui a échappé aux flammes. Et puis au fond du trou, quand on enlève le cadavre, les policiers découvrent un téléphone portable brûlé, et une montre. T'as vu ? Elle est arrêtée sur 2h15. Et puis quand ils font les poches du cadavre, c'est une liste de courses, ça, non ? Les lessives assouplissant à la pêche. Les analyses montreront que le cadavre a été incendié avec de l'essence de voiture, mais pas de bidon sur place. Le cadavre est confié au légiste de l'hôpital de Garches. Bien. Alors, il s'agit d'un sujet de sexe masculin de race blanche, non circoncis, mesurant environ 1m80, pesant vraisemblablement autour de 70 kg avant sa carbonisation. Pas de signe particulier, des cheveux châtains moyens et courts. Et quel âge, docteur ? Je dirais entre 25 et 35 ans, environ. Il était vivant ou mort, quand il a brûlé ? Il était vivant. Ouais, il y a de la suie dans ses poumons. Et la mort remonte à quand ? Une dizaine de jours, selon toute vraisemblance. Le corps ne présente aucune trace de violence ou de coups. Le premier réflexe des policiers est de se plonger dans la liste des disparitions inquiétantes dans le Val-d'Oise, disons de mi-janvier à fin janvier. Tu me dis qu'une habitante de Franconville est venue signaler que son mari avait abandonné le domicile conjugal le 23 janvier ? Ça colle, ça ? Il s'appelle comment, ton gars ?
Écoute, elle s'appelle Nathalie Després, et donc son mari s'appelle Joël Després. Quand elle est venue signaler sa disparition, elle a dit qu'elle ne l'avait pas vue depuis 3 jours.
Côté gabarit, côté âge, ça colle. Ce Joël Després qui a disparu a 39 ans. Il est déménageur. Le couple vit dans un HLM de Franconville. Et ils ont 5 enfants. Et on s'aperçoit que sa femme n'est pas la seule à s'être inquiétée. Un frère aussi est allé s'inquiéter de sa disparition à la police. Et puis des voisins aussi. Notamment un, Monsieur Thomas. Ben moi, ce qui m'a inquiété, c'est que j'ai croisé un des gamins de Joël et Nathalie. Il m'a dit texto, regarde parrain, papa, il est parti sans son permis de conduire. Et il m'a montré le permis. Et là, je me suis dit que c'était pas du tout le genre de Joël de pas avoir pris son permis sur lui, quoi. Il est déménageur, hein. Donc, à ce stade, on n'est pas sûr à 100% que le mort est Joël Després, mais tout colle. C'est quand les policiers comparent la dentition du cadavre à une radio saisie chez le dentiste du déménageur que les policiers ont la certitude qu'il s'agit bien de Joël Després. Une molaire supérieure très dégradée ne laisse absolument aucun doute. Et donc le 8 février, 3 jours après la découverte du corps carbonisé, les policiers débarquent au domicile du couple Després. C'est elle, Nathalie, qui leur ouvre la porte. En robe de chambre. Bonjour madame, on est de la police. On peut entrer ?
Oui, bien sûr.
Il lui montre la basket retrouvée près du cadavre et l'alliance. Vous reconnaissez ces objets, madame ?
Oui, c'est la basket de Joël et ça, c'est son alliance. Où avez-vous trouvé ça ?
Votre mari, madame, est décédé.
Non. Oh non. Mon Dieu.
Une chose intrigue les policiers. Il y a un monde fou dans cet appartement. Des enfants partout, et beaucoup plus que 5. Et aussi un couple d'adultes.
Ce sont des amis. Ils sont là avec leurs enfants, ils m'aident depuis que Joël est parti.
Les policiers relèvent l'identité de ces amis. Ils s'appellent Stéphane et Sandrine Essery. Et les enfants en plus sont donc leurs enfants. Dites-moi, madame Després, est-ce que vous pensez que votre mari a pu se suicider ? Étonnante question. Parce que dans cette affaire, le suicide est une hypothèse très faiblarde. Parce que certes, Joël Després a pu s'arroser lui-même d'essence et mettre ensuite le feu. Mais on n'a pas retrouvé le bidon. Cela dit, écoutons la réponse de la dame.
Oh non. Non, il n'aurait pas pu faire ça. Bon, cela dit, depuis quelque temps, il avait beaucoup changé, alors je sais pas.
Vous dites changer. Mais changer comment ?
Il buvait beaucoup. Et quand il avait bu, il me frappait.
Il frappait les enfants aussi ?
Non. Non, les enfants, il les insultait. Mais il ne les frappait pas. Hein.
Donc, contexte ? Des tensions dans le couple. Les policiers cherchent à reconstituer l'emploi du temps de Joël Després. La veille, il a amené sa voiture au contrôle technique avec l'un de ses fils. Ensuite, il a aidé un voisin à déplacer un matelas. Il est rentré à 21h30. Le lendemain matin, il est parti au travail à 6h. La copine, Sandrine Herry, était là. Et elle précise...
Il était dans sa tenue de déménageur. Et je me souviens, il s'est flotté.
Mais à propos, où est sa voiture ? Sa Renault 18. Elle est sans doute garée sur le parking de son entreprise de déménagement. Les policiers vont voir, ils tombent sur la patronne.
Ah ben, il n'est pas venu le 21 janvier. Le 21, il avait pris un congé. Il m'a dit une affaire personnelle. Moi, je sais pas quoi exactement, hein.
En creusant, les policiers découvrent qu'il avait un rendez-vous à sa banque ce matin-là. Mais d'après le banquier, il n'est pas venu.
Mais vous savez pourquoi il voulait vous voir, monsieur Després ?
Ah oui, oui. Oui, il voulait me voir pour ouvrir un compte à son nom propre. Parce qu'avec sa femme, ils avaient jusque-là un compte commun, quoi. Et lui, il voulait un compte à son nom, quoi.
Signe supplémentaire que ça bardait dans le couple. Joël préparait manifestement son départ. Ensuite, les policiers se lancent dans une enquête assez classique dite de voisinage. Et ils découvrent que les Després ont beaucoup d'amis dans l'immeuble. En fait, leurs voisins sont des amis. Et eux décrivent Joël comme un type adorable.
Oh ben, il ramenait toujours des petits cadeaux à Nathalie, des fleurs, et aux enfants aussi, il leur ramenait des cadeaux. Oh ben, c'était quelqu'un de gentil, hein, Joël.
Tiens, ça n'est pas exactement ce qu'a dit sa femme. Là-dessus, les policiers comprennent que le couple avait des problèmes d'argent. Elle ne travaillait plus, et lui, un temps, a perdu son emploi dans un supermarché. Il a passé 2 mois au chômage. 2 enfants de plus sont nés à ce moment-là. Il a alors réussi à se recaser comme déménageur juste avant la naissance d'un enfant de plus. Nathalie avait alors 29 ans. Elle a sombré dans la dépression. Elle n'arrivait plus à s'occuper des gosses. C'était une fée du logis avant. Mais là, elle ne faisait plus le ménage. Les cafards ont commencé à infester l'appartement. Et là, elle a fait une tentative de suicide, en avalant des médocs.
Oh ben Joël, ça l'a détruit, hein. Il s'est senti responsable, je pense. Et à partir de là, comme il a eu peur qu'elle recommence, ben il a commencé à dire oui à tout, quoi, tout ce qu'elle demandait. Il voulait satisfaire ses désirs. C'est moins de désir, quoi. Alors c'est lui qui faisait les courses, c'est lui qui s'occupait des gosses. Elle avait complètement démissionné. Hein.
Décidément, l'histoire racontée par les voisins amis n'est pas la même que celle de sa femme. Et c'est pas fini. D'autres voisins racontent que Nathalie appelait son mari « du con », du matin au soir. Et une voisine encore décrit la scène suivante. Joël est en train de réparer une fenêtre. D'un coup, la fenêtre se décroche, elle va lui tomber dessus, il la rattrape in extremis, et elle...
Mais dommage que tu l'aies pas prise dessus. Au moins, tu serais mort tout de suite.
Elle a dit ça. Sa femme. Là-dessus, le médecin légiste envoie les résultats des analyses effectuées sur les prélèvements réalisés pendant l'autopsie. Et très intéressant, on a retrouvé dans son sang du Lexomil. Le Lexomil, c'est un anxiolytique. Retour de l'hypothèse d'un suicide. Il n'allait vraiment pas bien. Mais on bute toujours sur le fait qu'on n'a pas retrouvé le bidon d'essence. Dans la foulée, les flics mettent enfin la main sur sa voiture. Sa Renault 18. Il la trouve garée sur un parking d'Épinay-sur-Seine, à 2 km de sa boîte de déménagement. Je vous rappelle qu'il n'est pas allé le jour de sa disparition. La R18 est fouillée, bien sûr. Et dans le coffre, on trouve une paire de Rangers, qui sont les chaussures qu'il utilise pour son boulot. Plus une bouteille de White Spirit. Mais c'est bien de l'essence de voiture qui a été utilisée pour mettre le feu au cadavre. Mais surtout à l'avant, côté conducteur et côté passager, sur le tapis de sol, les experts trouvent des traces de terre. Et cette terre est la même que celle retrouvée sous la basket de Joël. Et ça dessine un autre scénario que le suicide. Ça veut dire que 2 personnes qui sont présentes quand Joël est brûlé vif montent dans cette voiture après et viennent la garer là. Alors vous allez peut-être me dire que la terre était là depuis longtemps. Et peut-être que c'est lui-même, Joël, qui l'a mise d'un coup côté conducteur et d'un coup côté passager. Mais non, parce que le copain qui a aidé à déménager le matelas la veille est absolument formel.
Oh, il n'y avait pas de terre sur le tapis, hein. Ah non. Sûr, hein. La voiture était impeccable, hein, comme toujours.
Comme juste avant, Joël était allé faire son contrôle technique. Peut-être qu'il en a profité pour passer l'aspirateur. Donc à ce stade, l'hypothèse la plus probable est que la terre ait été déposée là par ceux qui l'ont tué. À propos, puisque cette voiture a passé le contrôle technique, Le mécanicien a dû noter le kilométrage exact. Ça peut être intéressant de comparer avec le kilométrage de la voiture qu'on vient de retrouver. Le papelard du contrôle technique indique 173 368 kilomètres. Tu peux regarder combien elle a de kilomètres au compteur, cette voiture ?
Attends, je regarde. 173 427 kilomètres.
Ça fait une différence de 59 kilomètres. Alors, est-ce que ça colle ? Du contrôle technique à chez lui, 7,4 km. Ensuite, on sait que Joël aide à déménager le matelas de son voisin avec sa voiture. Aller-retour, ça fait 3,8 km. Ensuite, de chez lui, à cette forêt d'Éragny où on le retrouve mort, eh ben, ça fait 22 kilomètres. Et enfin, de la forêt d'Éragny à ce parking d'Épinay-sur-Seine où on vient de retrouver sa voiture, il y a 25,9 km. Vous faites l'addition, 59,1 km. À 100 mètres près, ça colle. Que conclure de ça ? Eh bien que Joël n'a rien fait d'autre ce soir-là que de déménager ce matelas et ensuite aller mourir dans cette forêt. Il a été assassiné, oublié définitivement l'idée d'un suicide. Il y a quand même des gens auxquels il faut qu'on s'intéresse à un moment dans cette histoire. Ces amis, là, ce couple d'amis qui vit chez Nathalie avec deux enfants, les Esri. Qu'est-ce qu'ils fichent là ? Nathalie a dit aux policiers qu'ils étaient venus lui donner un coup de main après la disparition de Joël. C'est faux. Enfin, c'est faux, les voisins disent qu'ils étaient là bien avant. À la base, Stéphane Esri est un copain de Joël. Ils ont bossé ensemble dans une société de gardiennage. D'après ce qu'apprennent les policiers, Stéphane Esri était en pleine séparation. Et Joël lui avait proposé de s'installer chez eux en échange de menus travaux, c'est-à-dire un coup de peinture dans la cuisine et changer la tapisserie de la salle à manger. La suite, vous l'imaginez, elle était jouée d'avance. Il n'a pas fait que retapisser la salle à manger, le Stéphane. Pauvre Joël, dès qu'il a eu le dos tourné, son copain est devenu l'amant de Nathalie. Tous les voisins sont au courant.
Oh ben ça oui. Un jour elle m'a dit, Stéphane c'est l'amant parfait. Ben, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, on baisse toute la journée.
Ah. Ok, mais pour le coup, sa femme à lui, Sandrine, qu'est-ce qu'elle fait là avec ses deux marmots? Elle tient la chandelle? Eh ben non, elle est là pour éviter que Joël ait des soupçons. Comme elle était au bord de se faire expulser de son appartement, elle a accepté. Et elle a débarqué avec son nouveau mec, William. William le Guillon. Il y avait un monde fou dans cet appartement, dans ce F5. 5 adultes et 7 enfants. Drôle de situation. 5 adultes et 7 enfants dans le même appartement. La suite n'est pas drôle du tout. Du tout. Les voisins, encore eux, racontent que Joël était devenu l'esclave de la bande.
Oh, c'est lui qui raquait pour tout le monde. Il payait tout. Et puis fermait sa gueule.
Mais il y a bien pire que ça. Au fil des jours, les deux mâles dominants, Stéphane, l'amant de madame, et William, le compagnon de Sandrine Esri, ont fait de Joël leur tête de turc. Une fois pour rigoler, ils lui ont mis du détergent dans son café. Et une autre fois, ils l'ont réveillé pour qu'il fasse la vaisselle en pleine nuit. Et enfin, on découvre que 4 jours avant de disparaître, Joël a trouvé sa femme et Stéphane Esri au plumard et à poil. Les voisins racontent qu'après, ils l'ont vu en larmes. C'est évidemment ça, la clé du meurtre. C'est pour ça qu'il veut ouvrir un compte en banque à son nom. Il n'en peut plus de se faire berner. Il n'en peut plus de nourrir tous ses pique-assiettes. Et eux, ils ont senti le vent tourner. Il serait peut-être temps de placer tout ce petit monde en garde à vue. Patience ! On n'est pas dans un épisode de Maigret ou dans les 5 dernières minutes. C'est plus la police à papa. Les flics de la PJ se sont fait envoyer les fadettes du quatuor, c'est-à-dire le relevé détaillé et géolocalisé de leurs téléphones portables respectifs. Stéphane Essery a toujours prétendu que le soir du crime, il était au lit. Ah bon ? Alors pourquoi est-ce que cette nuit-là, il appelle trois fois Nathalie entre 1h43 et 2h06 du matin, alors qu'elle est censée être couchée à côté de lui ? Et pourquoi le dernier appel qu'il a passé est-il passé à deux pas du bois d'Éragny où on a retrouvé le cadavre, sachant que la montre de Joël est figée par le feu à 2h15 du matin ? Stéphane Essery a menti. Et Nathalie Després, était au courant de son mensonge. Et d'ailleurs, où sont-ils passés ces deux-là ? Au moment où les policiers de la PJ veulent les interpeller, ils ont disparu.
Ah ben je les ai croisés dans la cage d'escalier, en plein milieu de la nuit. Ils étaient en train de déménager. Elle m'a dit qu'elle partait parce que elle supportait plus de se sentir harcelée. Ouais, ouais.
On les retrouve, rassurez-vous. Ils sont arrêtés dans la région de Nantes. Et le même jour, Sandrine Essery et William Le Guillon sont interpellés à Aulnay-sous-Bois. Tous les quatre sont placés en garde à vue. Et c'est Sandrine Essery qui craque la première.
Je vais vous dire ce que je sais sur la mort de Joël. C'est Stéphane et William Le Guillon qui l'ont tué.
Et dans la foulée, les trois autres sont bien obligés de se mettre à table. Alors voilà ce qui s'est passé. Le moment clé, c'est bien quand Joël découvre que Stéphane est à poil avec sa femme dans son plumard. À partir de ce moment-là, il devient gênant. Et là, William, le nouveau mec de Sandrine Essery, a une idée.
On n'a qu'à mettre toutes ses affaires sur le paillasson, puis c'est tout.
Mais assez vite, il est question de l'éliminer. Le 20 janvier, Stéphane Essery pile une dizaine de cachets de Lexomil, que Nathalie mélange à l'assiette de bœuf en sauce qu'elle sert à son mari. Après le repas, tournée générale, églou, 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 et il y a aussi des pétards qui tournent. Mais à minuit, il est encore conscient, et ça on le sait, parce qu'il a décroché quand une amie a appelé. Mais juste après, il s'endort sur le canapé. Stéphane Essery va chercher la voiture. Ils le descendent inconscient par l'ascenseur. William Le Guillon se met au volant, et Stéphane Essery prend sa propre voiture. Vers 2h du matin, ils s'arrêtent dans une station-service de l'autoroute A15. Et là, ils achètent 4 litres d'essence. Ils arrivent dans le bois, ils se garent, ils tirent Joël toujours inconscient jusqu'au trou. Et c'est Stéphane Essery qui répond l'essence. Et c'est aussi lui qui craque l'allumette. Enfin, lui dit que c'est l'autre, mais l'autre dit que c'est lui. Il y aura débat là-dessus jusqu'au bout. C'est essentiel, hein, parce que factuellement, c'est celui qui met le feu qui commet le meurtre. Et ensuite, ils vont garer tous les deux la R18 à Épinay. Et ils rentrent à la maison où les deux femmes les attendent en regardant la télé. Et tout ce petit monde boit le café. Stéphane Essery et William Le Guillon sont mis en examen pour assassinat, Nathalie Després pour complicité d'assassinat et Sandrine Essery pour non-assistance à personne en danger. Et tous les quatre filent en prison. Dans les mois qui suivent, évidemment, les uns et les autres vont tenter de se défausser, à commencer par Nathalie, la femme de Joël.
Quand Joël, il a su pour moi et Stéphane, eh ben, il a menacé de tuer les gosses. Et après de se suicider. Et moi, je voulais les protéger, quoi.
Stéphane Essery, lui, cherche à accabler son ex, Sandrine.
Bah, c'est quand même elle qui m'a fourni l'exomine. Hein.
Ce dont l'instruction ne trouvera jamais la preuve. Reste à départager les deux bonhommes, c'est-à-dire les deux qui sont sur place, William Le Guillon et Stéphane Essery. On est d'accord que cette histoire est une logique de groupe. Mais dans un groupe, il y a toujours un leader. Alors qui est le leader de cet assassinat? William Le Guillon dit qu'il est passé à l'acte parce que Nathalie lui a dit que Joël était violent avec elle. Stéphane Essery dit que Joël était invivable depuis qu'il avait découvert sa liaison avec Nathalie. Il dit que c'est elle, Nathalie, qui l'a remontée, que l'idée n'est pas de lui. Une reconstitution est organisée dans l'appartement. Quand Nathalie Després arrive, elle est huée par les gens de l'immeuble. Ils lui crachent dessus. La scène est rejouée, pas à pas, ce qui n'est pas évident. Hein. Il n'y en a pas un qui raconte la même chose que ce qu'il a dit précédemment. Ça ne va pas être simple au procès. Le procès s'ouvre le 21 octobre 2002 devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Il est présidé au passage par un juge assez célèbre, Jean-Michel Ayat, qui est aujourd'hui premier président de la cour d'appel de Paris. Entre-temps, les deux couples ont explosé en vol. Nathalie Després et Stéphane Essery ne s'échangent pas un regard. Et les deux autres non plus. Stéphane Essery a décidé, pour tenter de sauver sa peau, de charger William Le Guillon. Et il faut bien reconnaître qu'à chaque fois, William Le Guillon ne se défend pas si mal. Il fait des réponses précises. Bref, on le croit. On le croit plus que Stéphane Essery. Car c'est l'enjeu de ce procès, déterminer qui a été le leader de ce crime abominable. Ils l'ont brûlé vif, je vous rappelle. Et la pression qui se dégage des audiences, c'est que Stéphane Essery n'est pas franc du collier. Le deuxième jour du procès, le président s'empare de la déposition de Nathalie Després pendant sa garde à vue. Madame Després, maintenez-vous, comme vous l'avez dit sur procès verbal, que la mort de Joël a été un soulagement pour vous. Elle était déjà très blême. Elle se décompose.
Oui, j'ai voulu la mort de mon mari. Oui, j'ai donné le signal pour l'exécuter, oui.
Le témoignage de l'un des experts psychiatres, le docteur Dubray, est très intéressant.
Je dirais qu'ils ont, tous les quatre, et c'est sans doute ça qui les réunit, qui les rassemble, une forme d'immaturité. Et je pense que cette immaturité a été le terreau de la dynamique mortifère du groupe.
Au moment de plaider, l'avocat général est très sévère.
Je vous demande de condamner Stéphane Essery à la réclusion criminelle à perpétuité, William Le Guillon et Nathalie Després à au moins 30 années de réclusion criminelle, et Sandrine Essery, dont on veut bien comprendre qu'elle a eu un rôle plus effacé dans le crime, à une peine de 12 ans de réclusion criminelle.
Les jurés délibèrent 2 heures seulement. Et le verdict est assez proche. Stéphane Essery prend perpète. Nathalie et William Le Guillon prennent 30 ans, avec une peine de sûreté de 15 ans. Et Sandrine Essery s'en sort avec 8 ans. Stéphane Essery, William Le Guillon et Nathalie Després font appel. Et donc on rejuge tout le monde, en février 2004, devant la cour d'assises de Versailles. Les jurés n'ont pas su les départager. Et finalement, ils condamnent Le Guillon, Nathalie Després et Stéphane Essery à la même peine, de 30 ans chacun. Et Sandrine Essery prend à nouveau 8 ans.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.